Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour à chacun. Que Dieu nous bénisse ce matin à travers cette méditation que nous allons ouvrir. Nous le savons tous, nous sommes confrontés avec des bonnes et des mauvaises nouvelles en permanence. Et c'est vrai que quelquefois, nous en tant que ministère pastoral, eh bien c'est vrai, les jours nous apportent des bonnes nouvelles. Puis il y a des fois, c'est le contraire. Et c'est vrai que ces temps-ci, eh bien il y a toutes sortes de peines que nous partageons avec certains, des souffrances physiques, des souffrances morales, des détresses, des angoisses, parfois des tumultes au niveau de la vie spirituelle, mais ça c'est la terre, tout simplement, hein, c'est vrai. Alors, par-delà les mauvaises nouvelles qu'il y a aussi dans le monde, hein, parce que là, en ce moment, je crois que il y a quand même profusion de choses qui sont terribles. Mais bon, en ce qui nous concerne, et c'est là ce que je voudrais préciser ce matin à travers le texte, c'est que nous avons un Dieu formidable et merveilleux. Et vous le savez, nous le savons tous, il est merveilleux notre Dieu, il vient à notre secours, il nous a fait des promesses, il nous parle. Quelquefois, nous sommes au fond du puits, et puis il nous dit tout simplement... Regarde, il y a encore la lumière au-dessus de ta tête. Voilà, il y a toujours quelque chose. Et c'est ce qui nous réjouit, parce qu'autant, parfois nous avons pleuré, autant nous sommes dans la détresse, autant quand Dieu intervient, eh bien il nous fait faire des pas de géant dans le domaine de la foi et dans les délivrances qu'il nous accorde. Alors je dirais, ça vaut pas... C'est vrai que on pourrait peut-être dire comme ça, mais je veux pas le dire comme ça, mais quelquefois on dirait ça vaut la peine de descendre bien bas parce qu'on remonte très haut, mais... Voilà, c'est un petit clin d'œil. Mais toujours est-il que j'aimerais partager avec vous quelque chose que Dieu m'a mis sur le cœur, que j'ai déjà eu l'occasion de partager avec vous, mais je voudrais lui donner une orientation un petit peu différente, une approche, une compréhension, mais ça reviendra toujours au même de toute façon. J'aimerais que nous fassions l'étude de quatre personnages. Elles sont dans le même texte, elles sont réunies ensemble parce que c'est l'histoire d'une famille. Quatre personnages, on va parler de leurs origines, quatre personnes, on va parler de leur caractère, mais moi j'aimerais bien parler d'une manière tout à fait sensible de leur réaction face à l'épreuve de leur foi, comprenez? Parce que les épreuves, elles sont le lot de tous les hommes, ça c'est une certitude, mais tous les hommes n'ont pas la foi. Peut-être dois-je dire que tous les chrétiens n'ont pas la foi, c'est possible. Ou alors une foi qui hésite, une foi qui cherche sa destination, et l'entre-deux est très très délicat. Vous comprenez, on est mal à l'aise, hein. On est dans la bara parce que on se dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Quelle est ta volonté? Est-ce que je dois douter de ton pouvoir? Enfin, mille et une questions, je ne vais pas vous les remettre devant vous parce que vous les connaissez tellement par cœur tout ça. Alors pour cela, j'aimerais que nous fassions une première lecture. Ça sera le principe que nous allons mettre en évidence pour chacun d'entre nous. Dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, au chapitre 6, me semble-t-il que c'est une parole qui est forte, mais elle a son sens pour chacun de nous. 1 Pierre, chapitre 1er, ouais, chapitre 1er, hein, j'ai fait une petite erreur, versets 6 à 9. Écoutez bien, on va prendre le temps de lire ça. C'est là ce qui fait votre joie. Ça commence par un positif. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui lui-même l'or est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le temps de son apparition est proche. Vous l'avez, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alors on a tous compris ce que ça veut dire tout ça. La joie est présentée en priorité. Bien que nous ayons dans notre pèlerinage terrestre à vivre maintenant, ce jour, hier, aujourd'hui, demain, eh bien, pour un peu de temps, qu'est-ce qu'il est long le temps quand on souffre, hein? Et la parole nous dit pour un peu de temps. Et comparé peut-être à d'autres dimensions, peu de temps, diverses afflictions, des pleurs, des larmes, des chagrins, afin que précisément ce que vous vivez, ce que nous connaissons les uns et les autres, Dieu va s'en servir pour le transformer, le transmuter, lui apporter non pas une destination négative, mortelle, de désespoir, mais précisément son contraire, l'épreuve de votre foi. C'est elle qui est mise en cause, c'est pas seulement l'épreuve de la vie. C'est pas seulement l'épreuve de notre famille, de notre couple, ce n'est pas seulement l'épreuve dans notre vie sociale, et puis toutes sortes de choses, de notre corps, de notre santé, mais l'épreuve de notre foi, ça renferme finalement l'ensemble de notre existence. Et il nous est dit que cette foi, c'est le trésor des trésors, plus précieux que l'or périssable. Et pour résultat, et c'est ce que nous voyons le dimanche matin quand nous nous retrouvons, où un frère ou une sœur a fait une expérience dans la semaine d'une délivrance merveilleuse, de quelque chose d'extraordinaire, d'un exaucement de prière, où là, eh bien, après avoir prié peut-être de moi des semaines, des années, Dieu lui a enfin répondu, enfin, je le retire, c'est un mot de trop, Dieu lui a répondu, parce que le temps, de toute façon, Dieu sait toujours le mesurer, et que là, nous sommes émerveillés de voir le ciel s'ouvrir sur notre vie, sur notre problème. Et de savoir que, à ce moment-là, le retour que nous pouvons lui donner, c'est la louange, c'est la gloire, c'est l'honneur, déjà maintenant, mais dans le ciel, ce sera infini, lorsqu'il reviendra pour nous chercher. Vous l'aimez sans le voir. C'est vrai. Il y aurait des gens qui nous prendraient pour des fous ce matin de se rassembler et de dire, dans le vide, en parlant dans l'espace, merci Seigneur parce que je t'aime. Non. Quand on dit quelqu'un je t'aime, on l'a en face. On le voit. Mais là, vous rendez compte? Le comportement que l'on a? Qu'est-ce qui peut nous donner d'être comme cela et de parler comme ça? C'est simplement la foi. Nous l'aimons sans le voir, figurez-vous. Mais nous savons qu'il est là. Nous savons qu'il est au milieu de nous. Il est bien présent. Alors, vous croyez en lui sans le voir encore. Il reviendra. Et on n'a pas besoin d'effigies, de statues, d'icônes dans nos églises pour dire « Ah, c'est Jésus !» D'ailleurs, tout ça, ce sont des choses tout à fait des rudiments humains hein, dont nous n'avons pas besoin parce que la véritable réalité, elle est dans nos cœurs, elle n'est pas à l'extérieur, vous le savez aussi bien. Vous croyez en lui sans encore le voir, vous réjouissez d'une joie merveilleuse et glorieuse. Oui, il y a ce que nous pourrions appeler, parfois dans notre vie, des tressaillements de l'esprit, vous comprenez? Un tressaillement de l'esprit dans nos situations les plus terribles que nous avons vécues, et nous en avons vécu hein, quelques-unes. Quelquefois, au moment où nous pensions que tout était fini, tout était dans le désespoir, c'est comme si, la nuit, le jour, dans des moments où nous étions au plus bas, c'est comme si une main douce, une voix douce venait sur nous, et elle nous amène à chanter un petit cantique. Quelquefois, c'est un cantique, ou c'est une parole. Vous l'avez connu, ça? C'est merveilleux! Quelque chose, et on se prend à dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tout est mof, tout est mauvais, tout est perdu. Et là, je sens que monte en moi, il y a quelque chose. C'est la visite discrète du Saint-Esprit qui vient en disant, je ne t'abandonne pas, je ne te délaisse pas. Encore, continue à marcher, on l'a entendu. Moi, j'étais réjoui par le don spirituel parce que finalement, c'est ce que le Seigneur m'a donné à mon cœur. C'est bien, hein, les vacances, hein. On revient en pleine force. Merci Seigneur, c'est vrai, c'est beau, et on partage tous ensemble. Ah oui, c'est merveilleux. Oui, vous vous réjouissez d'une joie ineffable, d'une joie qui n'a pas de mots. Parce que là, nous voyons au bout de notre tunnel, alors que nous étions dans le noir, une petite lumière qui grandit, qui grandit, qui grandit, et qui va nous amener dans la plénitude de la présence du Seigneur. Oui, il vient bientôt, le Seigneur. Vous savez? Regardez autour de vous, tout se prépare. Je ne voudrais pas être pronostiqueur, parce qu'il y en a beaucoup qui font de pronostics, hein, de toutes sortes de choses avec les événements qui... Mais le Seigneur est proche à la porte. Mais il est proche à la porte, il revient. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que nous, il faut négocier les contingences de notre vie. Et nous avons aussi encore des larmes, des pleurs et toutes sortes de choses. Et on va en parler à travers un autre texte. Vous l'avez déjà entendu, mais je vais revenir. Et puis il y a des amis qui sont là qui n'ont peut-être pas entendu. Ruth, chapitre 1er. Si quelqu'un a pleuré, c'est bien elle. Ruth, la princesse d'Israël. Oui. Notre chère Ruth. Alors, vous savez où ça se trouve? Dans la Bible. Alors, ça se trouve entre Juges et Samuel. Ah, c'est un tout petit livre. Il doit y avoir 4 chapitres. Oui, 4 chapitres. Mais quel chapitre? Quel encouragement! Quelle façon merveilleuse dont Dieu se sert d'un homme, même si c'est une étrangère. Étrangère à la loi, étrangère à la connaissance de Dieu. Comment Dieu fait les choses? Alors, je vais relire tout le texte, et puis je vais particulièrement me fonder sur les personnages en question. Écoutez bien. Chapitre 1er, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Malclon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, des étrangères moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Malclon et Kiljon moururent aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Souffrance et deuil. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elles apprirent au pays de Moab que l'Éternel, figurez-vous, avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, vous comme vous l'avez fait, envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les embrassa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai « J'ai de l'espérance », quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé ? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi, sa belle-fille, Ruth la Moabite. Ils arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Voilà pour notre lecture. Le temps des juges a été considéré dans l'Écriture sainte, dans l'Ancien Testament, comme le Moyen-Âge d'Israël, un pays d'obscurantisme, où les Israélites, peuple élu, avaient complètement abandonné Dieu. D'ailleurs, ça revient trois fois comme leitmotiv. Il n'y avait plus de roi en Israël et chacun se faisait ce qui lui semblait bon. Anarchie. Anarchie politique, anarchie sociale, anarchie religieuse, voilà, chacun. Ça durait près de 400 ans, cette époque, la période des juges. Et très souvent, à cause de leur désobéissance, les Juifs, les Hébreux, eh bien, tombaient sous le joug et étaient asservis par les nations alentour, qui leur en faisaient voir de toutes les couleurs. C'était l'occupation, et l'occupation ne durait pas 4 ans comme on l'a connu, mais elle durait 40 ans, 50 ans et quelquefois davantage, imaginez-vous. Alors ça c'est le temps, c'est le contexte, livre des juges, il y avait une famine dans le pays. Imaginez-vous un peu ce que ça peut vouloir signifier en France aujourd'hui, en 2014, plus rien à manger. Cette famine n'était pas le fait du hasard, puisque Dieu leur avait dit aux Hébreux, si vous me bénissez, si vous me servez, si vous m'aimez, si vous faites ce que je vous demande, je vous fais rentrer dans un pays où coule le lait et le miel, l'abondance. Mais par contre, si vous allez vers les idoles, si vous faites des faux dieux, si vous construisez des autels à des divinités du ciel, eh bien à ce moment-là, moi je vous abandonnerai. Il n'y aura plus d'eau sur votre pays, donc s'il n'y a plus d'eau, il n'y aura plus de récolte, et conséquence, il n'y aura plus rien à manger. C'est ce qui se passe. C'est ce que nous avons naturellement devant les yeux. Et puis, dans ce contexte de crise aiguë en Israël, climatique, il faut le dire, puisqu'il n'y avait plus rien à manger, il y a un homme qui va sortir de ce texte, un homme de Bethléem, de Juda. Vous savez ce que ça veut dire Bethléem ? Je vous le rappelais. Maison du pain. Là où on mange. Il était de cette ville, Bethléem, qui donnera naissance à celui qu'on appellera le pain de vie. Souvenez ? Jésus dit « Je suis le pain de vie » et il est né où ? À Bethléem. Donc il double signification. Alors, cet homme est de Bethléem, de Juda, il est parti, figurez-vous. Eh oui, il est parti parce que la situation devenait intenable pour sa femme et ses enfants. Il s'est dit « Mais si on reste là, on va tous mourir de faim comme tous les autres !» Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il fait comme des millions d'émigrés, comme des millions d'émigrés encore aujourd'hui, quand il n'y a plus rien dans un pays, on va dans un autre. On connaît quelque chose de terrible aujourd'hui. Ce sont des millions et des millions de gens, soit par la guerre, soit par des conditions économiques dans leur pays, qui sont en train de passer d'un continent à un autre pour essayer de trouver un peu de bonheur. En pensant que dans les pays occidentaux, eh bien c'est l'Eldorado et c'est le bonheur. Ils ont vu ça à la télévision, ils ont vu ça peut-être d'une manière, mais quand ils arrivent ici, ils déchantent. C'est malheureux, mais c'est la situation d'aujourd'hui. C'était pas un fait de l'Antiquité, mais aujourd'hui. Et que dire peut-être ce qui peut arriver encore maintenant? Alors il est parti, il a pris sa femme et ses deux fils pour aller faire un séjour dans le pays Moab. Le pays de Moab, c'est le pays qui est à côté, qui serait aujourd'hui peut-être considéré comme la Jordanie. C'est pas très loin de Jérusalem, c'est une soixantaine de kilomètres, grossièrement 60 kilomètres. Il était à Bethléem, Bethléem se trouve près de Jérusalem, et à un moment donné, il s'est dit, on peut pas rester là, on va tous mourir. Donc, il faut trouver une solution. Il va trouver une solution, cet homme. C'est la solution, maintenant, reste à savoir si c'est la bonne, et je vais en dire quelques mots d'ici quelques instants. Il va faire un séjour dans le pays de Moab, et se dit, peut-être que là-bas, chez les étrangers, eh bien, ils vont peut-être faire quelque chose pour nous. Voilà. Oui. Et pourtant, il était en pleine infraction avec le Seigneur, ce que lui avait dit. Tu n'iras pas vers les autres peuples. Parce que, tôt ou tard, eh bien, tu aurais la tentation d'imiter leur manière païenne, voire même criminel. Tu adorerais de faux dieux et tu m'abandonnerais. » Et il fait quand même, il passe la frontière, il passe quand même parce que il y a un impératif, il a peur cet homme. Et quand on a peur, quelquefois on prend de mauvaises décisions. Quand on est en dépression, on prend de mauvaises décisions. Attendez que les choses se calment un peu. Moi je le dis toujours quand les gens disent « moi je suis prêt à faire ceci et cela, mais vraiment je peux plus supporter, je suis dans un état de désarroi ». Souvent, et à chaque fois, je leur dis, écoutez, on va prier pour que le Seigneur calme un peu la situation, et après vous prendrez une décision, mais ne prenez jamais une décision sur un coup de tête, et en pleine déprime, en pleine anxiété. Hein. Parce que ça peut avoir un effet de soulagement au départ, mais après c'est la galère. Enfin, je ne sais pas si les choses peuvent être appropriées, mais toujours est-il que je l'éviterai souvent, pour l'avoir peut-être quelquefois fait moi-même. Alors le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Malclon et Kijon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Donc les choses sont bien mises. Et voilà qu'il nous est dit à un moment donné, arrivé au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Ils étaient partis, figurez-vous, pour un séjour, et ils ont fixé leur demeure. Voyez la nuance ? Nous allons là-bas pour échapper à la famine à Bethléem, mais dès que ça sera possible, nous reviendrons. Et vous allez apprendre un peu plus tard, dans le texte, on l'a lu, que non seulement ils étaient partis pour un temps très limité, un séjour, qu'ils ont fixé leur demeure, là ils ont fait des racines sur place, et que leur aventure a duré 10 ans. Voyez un peu comment on peut être emporté au gré des situations, des flots, au gré des vents, et à un moment donné partir sur une bonne intention, bien sûr ils ne voulaient pas mourir, c'est normal, c'est naturel. Nous allons séjourner. Et puis, au bout d'un certain temps, on se dit, mais il faut bien se fixer. Et ils se sont fixés. Et la catastrophe, parce que c'est une catastrophe, vous allez voir, a duré quand même 10 années. Mais je reviens sur le personnage lui-même. Élimélec. Il s'appelait Élimélec, il était Éphratien, il habitait Juda, donc Bethléem. Vous savez ce que veut dire le mot Élimélec ? Je vais vous le donner, hein. Ça veut dire... « Mon Dieu est roi ». C'est un beau nom, hein ?« Mon Dieu est le roi ».« Mon Dieu est roi ». Et vous savez, Élimélec est l'illustration type. C'est la foi qui capitule dans l'épreuve. Il y a une épreuve, plus de pain, il a souci de sa famille. Première chose qu'il fait, il fuit. La fuite n'est jamais très bonne, hein, parce qu'on ne sait pas où on va. Ouais, il fuit. C'est la foi, c'est le type de foi qui capitule, qui baisse les bras. Ça ne va plus ici, on va ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir ailleurs ? On me l'a souvent dit, vaut mieux souffrir, vaut mieux traverser une épreuve avec la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, que sans la présence de Dieu. Vaut mieux être là où Dieu se trouve, dans l'épreuve, avec notre épreuve, que d'aller là où Dieu n'est pas. Parce que là, vraiment, on va être tout seul. La foi d'Élimélec, qui porte un nom extraordinaire, Dieu est roi, et mon roi, eh bien, c'est la foi qui renonce. On ne veut pas se battre. On ne veut pas combattre. On préfère abdiquer parce que c'est une solution de facilité. On se dit, mais... je vais te débarrasser de ce problème. Mais on peut être débarrassé d'un problème pour en retrouver 10 autres après. Et c'est ça, parce que Dieu le sait. Est-ce que vous ne pensez pas que notre vie, le jour où nous avons confessé, il a pris la décision de confesser Jésus, qu'on lui a dit qu'il serait notre sauveur et le Seigneur pour toute notre vie, jusqu'au bout, jusqu'au moment où il nous emmènera, croyez-vous que lui, il a un programme pour nous ? Mais bien sûr qu'il a un programme. Nous, on ne connaît pas le programme qu'il a pour nous, pour chacun d'entre nous. Mais lui le sait. Et si devant le premier obstacle, nous lui échappons, j'ai peur, Seigneur. Ben, qu'est-ce qu'il pourra faire ? Oh, il va être là. Il sera là dans nos épreuves malgré nos erreurs. Il nous pardonnera encore nos épreuves, parce que c'est un Dieu de miséricorde. Mais nous allons apprendre durement. Nous allons apprendre avec peut-être des larmes et des cris, je ne sais. Vous savez, dans le psaume, il nous est dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Merci d'être à la bonne place, Seigneur. Et c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que je suis malade, c'est vrai que j'ai tant de problèmes dans mon couple, dans ma famille, avec mes enfants et ceci et cela. Mais Seigneur, je préfère encore le vivre avec toi que sans toi. Je ne bouge pas, Seigneur. La seule chose que je fais, c'est que je te prie, Seigneur. Je me tiens devant toi, mais je ne bougerai pas, parce que si je sors là d'où ce que tu m'as mis, eh bien peut-être que je vais aller à l'aventure, et c'est ce qui se passe pour Élimélec. C'est la foi qui capitule, Élimélec, c'est la foi dans l'épreuve, c'est la foi qui renonce. Et perdre la foi, c'est mourir. Écoutez bien. Élimélec, mari de Naomi, mourut. Et voilà. Voilà le résultat. Parce que ça, il pensait pas mourir. Il avait quitté Bethléem pour ne pas mourir. Il va dans le pays de Moab et c'est là où il meurt. Peut-être qu'il ne serait pas mort s'il était resté. Allez donc savoir. Et il y a quelque chose de terrible après. Élimélec mourut et elle resta avec ses deux fils. Terrible. Terrible. Et Naomi resta avec ses deux fils. Une femme qui va devenir veuve prématurément, parce qu'il devait certainement être encore dans un âge jeune. Une femme qui va se trouver dans un pays étranger, sortie de son pays, avec probablement des enfants, des adolescents. Probablement des adolescents, les deux garçons. Elle va se retrouver dans cette situation. Elle aurait été restée dans son pays. Son mari n'aurait pas sorti du pays. Mais ils étaient en famille à Bethléem. C'est vrai que la situation était difficile. C'est vrai que c'était compliqué. Mais ils étaient encore en famille. Il y avait des cousins, il y avait des cousines, des oncles, des tantes, et puis les ascendants et les descendants. C'était la famille. On cède en famille. Même quand il n'y a plus grand chose. Parce que le Seigneur permet. Pour celui qui a la foi, celui qui espère en l'éternel, il ne manquera jamais de rien. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, nous dit le psaume 37. Mais bien sûr, mais quelle épreuve pour chacun d'entre nous. Est-ce que je vais bouger ou est-ce que véritablement, eh bien, je vais rester là où Dieu m'a placé? Alors, elle resta avec ses deux fils. Et voilà que le temps passe. Elle va faire son deuil. Les enfants vont être privés de père. Mais qu'est-ce que l'on fait dans un pays étranger où il n'y a plus le chef de famille qui apporte le pain? Ah, le fameux pain qui avait déjà disparu dans le pays. Mais là, est-ce qu'il y en avait davantage? Il était certainement considéré comme un exilé. En plus, un juif. Et les juifs, on les aime pas. En Moab, on les aime pas. Même si c'est encore une vieille relation de famille, mais conflictuelle. Hein? Il avait pas la première place, là. Il avait la dernière. C'était l'exilé, vous comprenez? L'étranger. Et vous savez qu'un étranger, c'est toujours étrange. Hein? Vous savez, ce qui est étrange, c'est qu'on ne connaît pas et on veut pas chercher à comprendre. C'est ça le plus grave. Alors, ces garçons ont grandi probablement, arrivés au bout d'un certain temps, puisque ça durait 10 ans. Il nous est dit qu'ils prirent des femmes moabites. Il n'est pas dit qu'ils prirent des femmes seulement, mais des moabites, des étrangères. Des femmes qui finalement n'étaient pas, avaient été élevées avec leurs dieux, les dieux de leur père, dans le paganisme, avec des idoles, avec toutes sortes de choses, où l'adoration des Moabites, c'était Moloch, je crois, hein, le dieu de Moab, où là on faisait des sacrifices humains, on faisait des choses abominables, qu'on ne faisait pas en Israël, naturellement. Quoique. Alors, ils se sont mariés avec, c'est tout à fait naturel, c'est logique, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Comprenez, pour un séjour, ça fait long, hein. Vous rendez compte, vous partez en vacances au mois de juillet 15 jours et vous y passez 10 ans en vacances. C'est pas mal, hein. Et là, c'est pas des vacances. Ouais. Comme quoi, les choses, eh bien, on peut être emporté malgré nous. Avec des décisions que nous croyons spirituelles, avec des décisions que Dieu nous bénira là. Et si vous n'êtes pas sûr de cela, eh bien, vaut mieux faire attention. Vous savez, j'ai toujours à cette pensée, cette parole d'Élie. Quand Dieu l'envoie au torrent de Kérit, et qu'il y a aussi une famine, et qu'est-ce que Dieu dit à Élie? Je te nourrirai là, pas ailleurs. C'est là que je veux te nourrir. Vous savez, mes frères et sœurs, si quelquefois nous avons la tendance à vouloir papilloter de droite et de gauche, si Dieu vous dit papillote autant que tu veux, ça, moi, je ne prends pas la responsabilité. Mais quand Dieu nous dit, c'est l'église que je t'ai montré, c'est là où je veux que tu sois, parce que tu seras en bénédiction et tu seras béni là, bah, vous ne pouvez pas bouger, hein. Si Dieu nous donne le feu vert, d'accord, moi je ne retiens jamais personne dans l'église. Quand les gens me disent, ben voilà, on va ailleurs parce que ceci et cela, il y a toutes sortes de contingences à tenir compte et il faut être intelligent. Mais je veux dire que dans certains cas où il y a la notion spirituelle, moi quelquefois j'ai vu des gens partir, hein, ça fait 40 ans qu'on est dans le ministère, on en a vu passer. Hein, et j'ai vu des gens partir en disant, bon, je veux partir, etc. Et je me dis, ouïaïaïa, ça va pas passer là, il va y avoir un mur. Parce que vous savez, il n'y a pas que l'église de Saint-Nazaire qui est la meilleure. Hein. Il y en a d'autres, hein, des bonnes, hein, avec de bons pasteurs, avec de bonnes églises. Mais quand je dis qu'il y a quelquefois des choses, j'ai besoin de voir ailleurs, parce que l'herbe est plus verte ailleurs. Et quand c'est dans la volonté de Dieu, moi je sais pas tout, hein, mais il y a des fois je sais. Et quand je vois des gens partir, je me dis, ils vont partir. Mais resteront-ils chrétiens à un moment ou à un autre, hein? Voilà. C'est pas parce que c'est une garantie à Saint-Nazaire. Pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui, quelquefois, qui sont partis, il valait mieux qu'ils partent. Je suis en train de raconter mes petites histoires, mais vous m'en voulez pas, hein. Non, non, mais il doit y avoir une notion spirituelle dans tout ça, vous comprenez? Parce que si on marche pas par l'esprit, on marche par la chair. Et il y en a un qui nous attend si on marche par la chair. Lui, il va nous montrer des voies lumineuses. Des voies où il y a des fleurs sur les bas-côtés et tout ça. C'est beau, c'est magnifique. Mais attendez que ça ne finisse pas finalement, eh bien, dans une situation très, très difficile. Jésus nous a dit d'un chemin, il nous a parlé d'un chemin rocailleux et d'un chemin étroit, hein. C'est celui où il nous a recommandé de marcher. Enfin bon, chacun voit comme il veut, hein, de toute façon. Alors, l'une s'appelait Orpa, l'autre s'appelait Ruth, hein, et voilà qu'il arrive encore un second drame. Malclon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. De un, de deux, de trois. Voilà, elle se retrouve toute seule. Vous croyez pas que c'est terrible, ça? Moi, quand je lis l'histoire de Naomi, je me dis, c'est terrible! C'est une catastrophe! Il y a des gens qui pleurent aujourd'hui, là, vous savez. C'était pas prévu au programme, ça. Mais, la trois. Une famille entière. Je voudrais vous parler en deux mots de Naomi. Naomi, ça veut dire beauté. Probablement une jeune femme, une belle petite israélienne, ou israélite, pardon, plutôt. Israélite, pleine de fraîcheur. Elle s'était unie avec son bien-aimé Elimelech pour faire une vie heureuse, probablement. Et elle incarne Naomi, avec des mots comme beauté, douceur, elle incarne vraiment le caractère. C'est la foi qui résiste dans l'adversité, figurez-vous. C'est celle qui tient le coup, envers et contre tout. Et la foi de Naomi illustre le retour à la foi, ou vers la foi, donc vers la vie. C'est ce qui nous aidait au verset 5, et je le dis. Malclon et Kiljon moururent tous les deux aussi, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. C'est terrible, hein, ce qui lui arrive. Ça, c'est le drame qu'elle vit. Et puis, un peu plus loin, au verset 8, Naomi dit alors à ses belles filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, car vous avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Parce qu'elle avait pris la décision de retourner dans son pays après 10 ans et après 3 deuils. Elle va résister à cette adversité. Elle a dû en pleurer des nuits et des nuits, hein. Son mari, son premier fils, son deuxième fils. Puis à un moment donné, elle dit « Non, je ne peux plus rester là. Il faut que je retourne. Je revienne dans mon pays. Je revienne dans ma patrie. Je revienne à Bethléem, parce que Bethléem, ça veut dire la maison du pain où l'on mange à satiété. C'est là où il y a l'abondance. » Je voudrais quand même vous donner la signification des noms des fils. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Le premier qui est nommé, il s'appelle Malclon. Ça se traduit par malade. Un garçon qui devait être malade. Peut-être handicapé, un chétif. Oui, vous avez eu des enfants comme ça, ça peut arriver. On ne choisit pas ça. Mais c'est encore un autre drame. Et puis le deuxième, il s'appelle Kiljon. Ça veut dire asthénique, dépressif. Ils n'avaient pas de chance avec leur garçon. Ils étaient fragiles. Ils avaient une constitution physique ou une constitution psychologique ou morale fragile. C'est comme ça. Et nous voyons que, après tous ces événements, le père, le fils, deuxième fils, après avoir vécu 10 ans dans cette situation d'enfermement, elle avait dû penser plus d'une fois à son pays. Naomi qui était restée seule. Oh, c'est vrai que vous allez me dire, elle avait 2 filles maintenant. Oui, mais des fils, ça se remplace pas par des fils, et des filles, ça se remplace pas par des fils. On ne compense pas. Un être, c'est un être. Elle avait des belles filles maintenant, c'est vrai. Voilà qu'ils étaient partis avec, elle était partie avec 3 hommes, et elle a maintenant 2 belles filles, ils sont 3 femmes. Et qu'est-ce qui se passe? Puis elle se leva à un moment donné, elle et ses belles-filles, donc il y avait une intimité, certainement une bonne relation entre la belle-mère et les filles, afin de quitter le pays de Moab, parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Elle a pris à un moment donné, au pays où elle était, le pays de sa servitude, son Égypte à elle, sa prison à elle, sa captivité, que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. 10 ans après. Mais il y a bien longtemps que Dieu avait desserré l'étau, que la famine avait disparu, mais elle était restée dans sa misère. Puis à l'époque, on n'avait pas Internet et les journaux, hein. Elle était restée comme ça, dans sa misère. Rester dans sa misère, sans rien faire, sans pouvoir en rien faire. Quelquefois, il y a des enfants de Dieu qui sont comme ça et qui disent, mais qu'est-ce que je vais faire? Je reste comme ça. Parce que après avoir fui, après avoir eu peur et avoir fui, après on ne veut plus fuir. On est comme en prison en disant, si je fais un geste de plus, il va m'arriver quelque chose de pire. Donc elle était restée comme ça. L'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Alors à ce moment-là, elle est sortie de sa maison qu'elle habitait, accompagnée de ses belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Voilà. C'est pour ça que je reviens. Notre beauté, notre douceur, qui veut dire Naomi, c'est la foi qui résiste à l'adversité. Elle n'avait pas sombré, elle avait gardé sa peine, elle n'avait pas bougé, mais néanmoins, ça illustre le retour vers la foi ou à la foi, et c'est un retour à la vie, vous allez le voir par la suite. Son mari, mort. Elle va retourner à la vie. Alors je continue dans notre petite histoire. Ça va, vous suivez? C'est beau, hein, l'histoire de Ruth, hein? C'est beau, hein? Non? Vous osez pas me le dire, hein? C'est tout. Allez, bon, c'est pas grave. De toute façon, je veux pas en prendre ombrage, hein, n'ayez pas peur. Alors, Naomi dit alors à ses belles-filles, allez chacune à la maison de son père, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Écoutez, il y avait une bonne relation qui s'était faite entre la belle-mère et les filles. Ouais. Et je crois que Naomi avait dû leur parler qu'en Israël, il y avait un Dieu de miséricorde et un Dieu puissant, un Dieu extraordinaire. Voilà, parce qu'elle leur dira. Elle va parler de son Dieu à elle. Elle dira, mais l'Éternel, que l'Éternel vous bénisse et qu'il use de miséricorde. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les embrassa. Eh oui, elles étaient jeunes, hein. Comme on mariait peut-être les filles à l'époque, peut-être à 13 ans, ou c'est un petit peu jeune, hein, pour nous aujourd'hui. Mais ils se mariaient très très jeunes à l'époque, hein. Alors elles avaient peut-être 20 ans, 25 ans, au plus, je ne sais pas, hein. Mais elle va leur donner une bénédiction, elle leur parle de Dieu, elle va donner le nom de Dieu comme bénédiction. Et bien maintenant, allez mes filles, vos maris sont morts, on a pleuré suffisamment, on s'est asséché. Maintenant, il est temps de faire quelque chose d'autre. Et nous voyons que elle va non seulement les bénir en son Dieu, mais elle va leur faire une promesse, mais retournez maintenant, et vous allez trouver un homme qui va entretenir votre vie, et vous serez heureuse. Et c'est Dieu qui va vous donner un nouveau mari maintenant, puisque les autres sont morts. Elle les a embrassés. Imaginez-vous l'étreinte à ce moment-là. Une étreinte d'amour, de peine, de chagrin, mais d'espérance. Alors les filles, elles ont élevé la voix, elles ont pleuré, et elles lui dirent, mais non, nous n'irons avec toi dans ton peuple. Naomi va insister, elle va dire, mais retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Est-ce que vous imaginez que Dieu va me donner un homme nouveau maintenant, un nouvel homme, un nouveau mari, et que vous allez attendre combien? C'est combien? 9 mois, hein, pour avoir un bébé, hein. Ça change pas, hein. Bon. Et puis après, faut l'élever, là, le garçon, hein. Si vous attendez qu'il ait 20 ans, eh ben, vous allez vieillir, hein, et là, il y aura peut-être plus d'espoir d'avoir des enfants, hein. Alors, c'est la discussion qui est donnée, hein, vous le relirez chez vous, hein. Quand je dirai, dit Naomi à ses belles-filles, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai un fils, faut-il que ce soit un fils, ça pourrait être des filles, hein. Est-ce que vous allez attendre? Non, mes filles, dira-t-elle, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue sur moi. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore, et voilà, Corpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Il y a 2 verbes importants. Orpa a embrassé sa belle-mère pour lui dire au revoir, adieu. Et Ruth, elle, l'a tenu bien ferme contre elle. Je ne veux pas te quitter. Je ne veux pas me séparer de toi parce que je t'aime. Orpa, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire jeunesse. La jeunesse. Avec toute cette beauté qu'il peut y avoir, cette énergie de la jeunesse, cette belle jeune fille moabite. Mais jeunesse, c'est aussi quelquefois la superficialité. C'est aussi la légèreté, où les décisions ne sont pas encore prises parce que le cœur n'est pas encore prêt, la personnalité n'est pas encore faite. Chez une jeune fille ou chez un jeune homme de 18 ou de 16 ou 18 ans, il y a tellement de choses à découvrir encore dans la vie à cet âge-là, vous comprenez ? Alors, jeunesse. Orpa est la caractéristique de la foi sans force et sans volonté. Elle dit oui aujourd'hui, demain elle dira non. Oui, elle ne s'est pas déterminée. C'est la foi qui n'obtient rien parce qu'elle abandonne tout en cours de route. À un moment donné, elle lui avait dit « mais j'irai avec toi ». Puis maintenant, elle lui dit « je peux pas aller avec toi ». Trop difficile. Le verset 8 et 9, la proposition lui est faite. « Retourne ma fille ». Et elles disent tout simplement « mais nous ne te laisserons pas, nous élevons, elles ont pleuré, nous irons avec toi, avec ton peuple ». Et puis, un peu plus loin, verset 14, nous le voyons. « Elles ont pleuré encore, et elles pleurèrent encore ». Et Orpa, à un moment donné, a dit non, moi je peux pas, c'est trop fort pour moi. C'est pas possible, je ne peux pas vivre dans un pays qui n'est pas le mien, je ne peux pas aller en Israël. Moi, les Israélites, j'ai toujours entendu parler que c'était des ennemis de Moab. Je ne peux pas. Il fallait qu'elle abandonne à ce moment-là ses dieux, qu'elle abandonne ses idoles, qu'elle abandonne ses temples, qu'elle abandonne toutes ses traditions. Occultes et ténébreuses. En Israël, j'ai appris qu'il y a un dieu qu'on adore en esprit, en vérité. Moi, c'est pas possible. Moi, j'ai besoin de mes pénates. J'ai besoin de mes téraphins. J'ai besoin de toutes ces choses. Parce qu'autrement, moi, c'est pas ma foi. C'est pas ma religion. Je m'y retrouve pas. Et voilà. C'est la foi sans force, Orpa. Sans volonté. Parce que la personnalité n'est pas encore là. Naturellement, peut-être. Mais Ruth. Ruth s'attacha à sa belle-mère. Ah! Le mot attaché a un sens tout à fait particulier. Parce que vous savez ce que veut dire le mot Ruth ? Amitié. Et dans le mot amitié, il y a le mot amour. Amour. Jésus nous dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. Ouais. Parce que la relation que nous avons avec Jésus, c'est pas d'un maître avec un serviteur, c'est d'un père ou d'un frère avec les hommes que nous sommes et la relation qui nous lie, qui nous attache, c'est l'amour. Pour ça qu'il nous dit « mes amis ». Ruth, c'est l'amitié. Et là, elle est l'illustration de la foi qui triomphe et nous attache à Dieu. Écoutez, dans le livre des psaumes, non, le livre de Job, il nous est dit « attache-toi donc à Dieu et tu auras le bonheur et tu connaîtras la joie et la paix ». Vous connaissez ? Alors, Job, chapitre 22. Si ma mémoire est fidèle. Ouais. C'est la foi qui triomphe et nous attache à Dieu. C'est la foi, cette foi-là est capable de tout recevoir, même le plus inouï. C'est la foi qui doit présider dans nos cœurs et dans nos vies et dans cette église. C'est la foi spirituelle. Ce n'est pas une foi de sensibilité, ce n'est pas une foi religieuse, ce n'est pas une foi qui nous amène à nous émoustiller de droite et gauche en disant j'ai senti quelque chose. On ne vit pas par la foi en sentant. On vit par la foi, par une conviction dans notre cœur. Et même après, s'il y a des résultats qui sont sensibles. Mais on commence par là. On commence par là. Capable de recevoir le plus inouï. Et qu'est-ce qu'elle dit à un moment donné ? Elle va faire une belle confession qui va être véritablement la déclaration de son attachement à Dieu et à Noémie et au Dieu de Noémie. Naomi lui dit « Mais voici ta belle-mère est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne avec elle. » Et Ruth a répondu cette belle parole. Extraordinaire, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras j'irai, où tu demeureras je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras je mourrai et j'y serai enterré. Ah, c'est beau non? Seigneur, qu'est-ce que c'est formidable! Combien, Seigneur, je t'aime pour tout abandonner derrière moi, pour tout laisser pour l'amour de toi. Ouais. Ton peuple sera mon peuple, ton pays sera mon pays, ta maison sera ma maison, ton Dieu sera mon Dieu. Et quand viendra la mort, eh bien je veux être enterré sur ce sol-là, avec toi. Vous savez que Ruth, c'est la grande, pas Ruth, mais Naomi, c'est la grande évangéliste de l'Ancien Testament. Elle a parlé, et elle a pu sauver des âmes, La preuve, en tous les cas, une âme. Mais vous allez voir que ça s'est pas arrêté là. Ça s'est pas arrêté là. Alors, Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Eh oui, deux pauvres femmes, certainement si pauvres qu'elles avaient si peu de choses à transporter qu'un petit baluchon sur les épaules. Ruth n'a pas regardé en arrière. C'était fini. Son amour était devant. Elle regardait. Elle faisait confiance à Naomi, ou là, à Naomi l'a menée. Naomi, elle regardait. Je vais revoir mon pays. Je vais revoir ma maison. Je vais revoir Bethléem. Et elle marchait avec cette force. Mais il y avait quelque chose de terrible au fond de son cœur. C'était sa souffrance. Et c'est la peine d'avoir laissé derrière elle un mari et deux fils. Ça ne pouvait pas les ramener. Et elle était même à la limite remplie d'une certaine amertume. Vous l'avez lu avec moi. Le Seigneur m'a affligé. Oui. Écoutez, vous marchez peut-être sur un chemin difficile, vous avez les larmes aux yeux, ça embrouille un petit peu votre raison. Mais une chose qui est certaine, dans cette situation, ne restez pas sur votre passé. Ne restez pas sur vos souffrances et vos échecs. Et même peut-être des décisions que vous avez prises qui ont été mauvaises. Parce que moi je voudrais vous dire que le Seigneur est capable de vous donner une nouvelle vie. Il est capable d'enlever les anciennes souffrances. Vous n'oublierez jamais les souffrances de l'histoire. Mais quand vous y penserez, ça ne vous fera plus mal dans votre cœur. Vous n'aurez plus de souffrances. Vous y penserez parce qu'on ne peut pas oublier, hein. C'est un cri dans notre... Mais au lieu de vous renverser et de pleurer, vous pourrez regarder parce que vous avez maintenant un nouvel objectif devant vous. Le Seigneur vous attend dans la maison du pain. Et c'est là où il y a la bénédiction. C'est là où il y a une nouvelle vie. C'est pour dire qu'on peut faire tous des erreurs comme Élimélec. Mais le Seigneur est là pour nous conduire et nous diriger. Avant de terminer, je voudrais simplement dire une petite chose, de le rappeler. Élimélec, c'est mon Dieu. Mon Dieu est roi, c'est la foi qui capitule. Naomi, ça veut dire tout simplement la douceur et la beauté, c'est la foi qui résiste dans l'adversité. Orpa, c'est jeunesse. C'est la foi qui sans force et sans volonté qui n'atteint jamais le but. Elle retourne en arrière, enfin le même pour faire le premier pas. Ruth, c'est amitié, c'est la foi qui triomphe et qui s'attend à Dieu envers et contre tout. Et je finis par cette parole. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite, et ils arrivèrent. Alors là, c'est quelque chose de formidable. Moi, je suis toujours touché par ce verset. Ils arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Dans le mot « orge », il y a le mot « or ». Parce que quand Naomi et Ruth se sont présentées sur la colline et qu'elles ont vu, que surtout Naomi a vu, à perte de vue, c'était la saison de la moisson, quand elle a vu autant qu'on pouvait voir jusqu'à l'horizon des champs qui étaient jaune, champ d'orge, jaune comme l'or. C'était véritablement la promesse que Dieu avait visité son peuple. Et qu'après avoir tourné le dos 10 ans auparavant, quand ils sont partis comme des malheureux qui fuyaient, et quand ils ont regardé Bethléem et toute sa région, tout était brûlé, tout était noir, tout était calciné, puisque c'était la famine. Et quand elle revient, elle voit ces champs qui, à perte de vue, sont jaunes et brillent sous le soleil, ils rayonnent. C'est pour ça que je vous ai dit, dans orge il y a or, parce que Dieu est capable de nous donner de l'or. Attendez, hein, c'est pas... Mais de nos vies, il est capable de tout ce qui est vulgaire, de tout ce qui est triste, de tout ce qui est mauvais. De tout ce qui est peine et chagrin, Dieu est capable de nous donner la paix, l'allégresse et la joie. Ça, c'est quelque chose. Au commencement de la moisson, des orges leur apparurent. C'est l'or de la terre. Ouais, ça, c'est l'or de la terre. Ça pousse, hein. C'est Dieu, c'est le principe de création. Et l'or de la terre, c'est le pain de Bethléem. Celui qui viendra plus tard et qui s'appellera le pain de vie. qui nourrit pas seulement le corps, mais qui nourrit l'âme et qui nourrit l'esprit. Et il y a l'or du ciel, c'est la bénédiction par la foi. Merci Noémie de ce que tu nous as montré le chemin, un chemin si difficile. Un chemin qui nous fait pleurer tous les jours, mais un chemin qui nous conduit à une véritable bénédiction. Mes frères et sœurs, on n'est pas perdus, hein. On est sauvés. Moi je vous encourage à mettre votre foi dans le Seigneur. Envers et contre vous, de ne pas vous arrêter. Et vous savez ce qui est arrivé, c'est que elles sont venues toutes les deux, Naomi la veuve, également Ruth la veuve, et elle a trouvé un mari. Figurez-vous, il s'appelle Boaz. Ils vont avoir un enfant. Cet enfant sera appelé Obed. Et Obed enfantera aussi un enfant qui s'appellera Isaïe. Et ça vous dit quelque chose, Isaïe ? C'est le père de David, le roi David, le grand roi d'Israël, qui sera le descendant de Christ. Ça, c'est de l'or. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta bonté et ta fidélité. Ma prière ce matin, c'est pour mes frères et mes sœurs qui sont là. Et puis peut-être tous ceux qui entendront par les moyens modernes aujourd'hui, eh bien, ce même message. Seigneur, je te prie pour mon frère, ma sœur, je te prie pour mes amis, Seigneur, afin qu'ils ne perdent pas courage, afin qu'ils ne soient pas découragés, afin qu'ils ne soient pas dans la tristesse, qu'ils ne se renferment pas dans la tristesse, qu'ils n'y restent pas un séjour, qu'ils n'y restent pas quelque temps. Qu'ils ne se fixent pas dans leur misère, qu'ils n'y restent pas 10 ans, Seigneur, et qu'ils puissent regarder qu'aujourd'hui même, si nous tournons les yeux vers le ciel, eh bien dans le ciel, il y a véritablement une bénédiction. Et ça, c'est notre heure. Connaître Jésus, c'est de l'or. Nous voulons croire qu'en effet, notre foi qui est éprouvée, eh bien, plus que l'or, c'est véritablement celle qui va nous conduire à te louer, à te bénir et à exprimer avec des chants d'allégresse notre bonheur de te connaître. Oui, Seigneur, c'est vrai que la foi, il faut qu'elle soit éprouvée. Il faut qu'elle passe au creuset. Mais quand elle ressort comme l'or, elle ressort purifiée, elle ressort encore plus forte. Seigneur, dans le nom de Jésus, bénis mes frères et mes sœurs. Tu passes dans les rangs maintenant. Tu connais les souffrances physiques. Tu connais les souffrances morales, psychologiques. Tu connais peut-être tout ce qu'il peut y avoir, en effet, Seigneur, parfois de dramatique, de déchirement au niveau de notre vie spirituelle, des tentations, lutter avec le mal, avec le péché, lutter avec l'adversaire. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, un jour tu es venu nous chercher. Et nous croyons, Père éternel, que tu demeureras jusqu'à la fin, puisque tu nous as dit, « Nul ne les ravira de ma main, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. » Merci, Seigneur. Merci de nous avoir donné le pain de vie. Merci pour Bethléem. Merci pour ta bénédiction et remplis-nous encore plus de ton amour, de ta fidélité, de ta paix. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.